Europe 1. <t'en> 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans une édition un peu spéciale, unique même, d'Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, mais qui aujourd'hui sera encore plus chic que d'habitude. Même David a mis une chemise à peu près pas froissée, c'est la première fois de la saison, car aujourd'hui, pour mon fidèle complice Stéphane Bern, qui est d'ailleurs chevalier de l'ordre britannique, on le rappelle, c'est un événement qu'il attendait avec énormément d'impatience.
La fête de la bière.
Non, le deuxième événement que vous attendiez avec énormément d'impatience, Stéphane, l'anniversaire de la reine Elisabeth II, dont on célèbre aujourd'hui les 95 ans. Bonjour Stéphane Bern, je compte sur vous pour transmettre mes hommages à Sa Majesté.
Mais bonjour, mais enfin, elle est quand même un peu affligée, si vous voyez ce que je veux dire, après la mort de son époux. Enfin, bonjour Mathieu, bonjour à tous, oui. Comptez sur moi Mathieu, vous savez, elle me parle beaucoup de vous.
Vraiment,
vraiment oui.
Ah,
oui,
en bien j'espère.
Hein. Ni en bien ni en mal, ah. En fait, elle ne sait pas qui vous êtes. Mais aujourd'hui, salaud. Effectivement... elle fête ses 95 ans, enfin elle fête, c'est beaucoup dire,
je dis, parce qu'elle
n'est pas au milieu de sa forme. L'occasion, cela dit, pour nous, de raconter celles et ceux qui ont immortalisé la Queen, en partenariat avec la formidable revue Légende, qui consacre son nouveau numéro à la reine avec de très beaux textes et de magnifiques photos. Eh bien, des photos, justement, lui, il en a prises de la reine. Je vous raconte l'histoire du photographe Cecil Beaton, qui a notamment immortalisé son couronnement il y a 67 ans. Et puis, grâce à lui, on peut voir la reine en peinture. Et quelle peinture ! D'ailleurs, c'est vraiment décalé. C'est, normalement, un portrait, ça doit être flatteur.
Oui, celui-là, il est terrible.
Il est terrible. C'est Lucien Freud, le petit-fils de Sigmund. Visiblement, il avait hérité beaucoup de son grand-père. Grand peintre, donc, qui a immortalisé la reine. On vous entraîne dans les coulisses de cette séance de pose, pas comme les autres. Et de votre côté, j'imagine, Mathieu, vous avez choisi un personnage plus contemporain.
Oui, Stéphane, plus proche de nous, mais aussi, eux aussi ont rendu hommage à leur manière à la reine Elisabeth II. Je vous brosserai le portrait à 99% vrai des Sex Pistols. Je sais, Stéphane, qu'à l'époque, vous étiez plutôt Luis Mariano, qui, lui, n'a jamais manqué de respect à la reine, mais j'essaierai de réveiller le punk qui sommeille en vous, Stéphane. Ça va pas être simple. Avec nous, comme chaque après-midi, une sacrée bande de punk, eux aussi, qui vont célébrer l'anniversaire de la reine à leur manière, à commencer par une grande fan des Sex Pistols, dont elle connaît tous les tubes par cœur. Oui, bon, c'est la fête quand même. Bonjour Clémentine Portier-Kassenbach.
Vous croyez, bonjour messieurs, bien sûr, je connais les Sex Pistols, c'est Johnny Rotten. Non, mais non. Lui, regardez ça, il a encore le lait qui lui sort du nez, il veut nous donner des leçons. Ça, c'est un rocker.
Alors, de quoi vous nous parlez aujourd'hui,
alors, Stéphane,
Clémentine.
Vous évoquiez le couronnement d'Elisabeth II il y a 67 ans, le 6 février 52, elle avait 25 ans.
Non, elle n'est pas couronnée. Le couronnement, c'est le 2 juin 53.
Vous avez raison. À Westminster. Et depuis ce jour-là, elle ne s'appartient plus. Elle appartient à ses millions de sujets de par le monde, avide de tout savoir d'elle, absolument tout. Mais elle, qui semble tout avoir dans la vie, à quoi peut-elle bien rêver, la reine d'Angleterre ?
Vous connaissez les rêves de la reine d'Angleterre. Ça,
mais
c'est
oui.
Un scoop. Elle dit qu'il évite Europe.
Et les vôtres aussi.
Oui, pour ceux-là, ils sont moins dissibles. Face à vous, Clémentine, votre belle entente, que dis-je, votre complicité nous prouve chaque jour qu'on a bien fait de la faire, l'Europe, puisqu'à chaque fois que vous le retrouvez, vous vous exclamez
« Ah, c'est belge, pervers !»
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis. Bonjour Clémentine quand même.
J'imagine qu'il va faire un pudding ou un gâteau d'anniversaire.
Non, je vais apporter un gâteau à la reine peut-être, parce que c'est son gâteau préféré. Je mettrai quelques bougies dessus.
Attendez, est-ce que Stéphane connaît son gâteau préféré?
Bon, écoutez, elle avait longtemps qu'elle ne mange plus de gâteau.
Des gâteaux très mous, un baba au rhum peut-être.
Oui,
carotte cake. Ah, et alors, je vous raconterai l'histoire qui n'est pas banale, hein, de cette spécialité britannique très populaire aux États-Unis aussi.
Ah oui, moi je pensais que c'était américain d'ailleurs, le carotte cake.
Alors ça vient même de plus loin que ça, figurez-vous, vous allez être surpris.
Ok, ça vient d'Allemagne.
Pas loin.
Et puis à vos côtés, Olivier, il y a le portugais magnifique qui parle toutes les langues.
Travaillez vos accentuations.
Nous on rigole, vous voyez. Vous faites le sérieux, nous on fait l'humour, vous voyez. On se partage. En tout cas, il parle très bien l'anglais. C'est David Castello-Lopez.
Oui, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un anglais très caractéristique qui est l'anglais de la reine d'Angleterre. Pour aujourd'hui, qu'on verra qu'il y a un anglais qui se distingue même au sein de l'anglais qui se distingue déjà de l'aristocratie.
Ah, carrément.
Et je l'ai analysé pour vous. Alors, je passerai assez vite sur les origines parce qu'on ne sait pas très très bien d'où ça vient, mais en tout cas, je le décrirai assez bien pour vous.
Enfin, à la demande de la reine Elisabeth II, qui adore cette séquence de l'émission, nous jouerons à Bern to be alive. Yes, my queen, it will be your cadeau d'anniversaire. Stéphane Bern getting ridiculized in public once again by Lady Clémentine. Ce sera pile pour l'heure du thé, vers 5h10. Et pour vérifier si Stéphane connaît aussi bien la reine qu'il le prétend, évidemment, un quiz spécial reine d'Angleterre. Mais tout de suite, partons à la rencontre de celui qui a immortalisé le couronnement d'Elisabeth II en 53. Stéphane Bern nous raconte le destin de Cécile Beaton.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes le 2 juin 1953, aux alentours de 13h. Elisabeth II vient à 27 ans d'être couronnée reine devant plus de 100 millions de téléspectateurs. Elle est attendue à Buckingham Palace dans la Green Drawing Room. C'est cette pièce parmi les 600 du palais que le photographe Cecil Beaton a choisi pour faire le portrait officiel du couronnement de sa très gracieuse majesté. Elisabeth II prend la pose devant un décor reconstitué de la chapelle de Westminster. Elle est assise de profil, elle tient de la main droite le sceptre à croix, de la main gauche le globe. Surtout, la jeune reine résiste sans sourciller à la lourde couronne impériale vissée sur sa tête depuis plus de 3 heures. Plus tard, Cecil Beaton confiera à propos de cette séance de photos, la reine semblait si petite sous sa robe et sa couronne, son nez et ses mains si roses, ses yeux si fatigués. Le photographe britannique, du haut de ses 49 ans, est extrêmement respectueux du protocole. Lui qui shootera les plus grandes stars de cinéma, d'Audrey Hepburn à Marilyn Monroe, s'autorise simplement quelques indications à son royal modèle. Charmante, divine, sont les rares mots qu'il ose prononcer. Et cela suffit. La séance ne dure que quelques minutes. Sa Majesté doit saluer du balcon l'immense foule venue l'acclamer. Ce n'est qu'à 3h du matin que le photographe fébrile téléphone à ses assistants chargés de développer les clichés. Beaton est soulagé, tout est parfait. De la lumière au décor, le rendu est à l'image de ses attentes. Ce couronnement, c'est pour lui aussi la consécration d'une vie dédiée à la photographie. Une vie commencée en 1904. Cecil Beaton a 3 ans lorsque, comme chaque matin, il grimpe dans le lit de sa mère alors qu'elle boit son premier thé de la journée. Mais ce jour-là, il découvre ébahi une carte postale entre ses doigts délicats. Sur le papier glacé est imprimée la photographie d'une actrice anglaise, Lily Elsie. Mou boudeuse, robe sensuelle, il tombe immédiatement amoureux de cette femme, décrite à l'époque comme la plus belle du monde. Ce premier contact avec la photographie le marque pour toujours. Quelques années plus tard, ses parents lui offrent pour son anniversaire un brownie box, non pas un gâteau au chocolat, le brownie, mais le célèbre appareil photo Kodak commercialisé jusqu'en 1980. Beaton passe alors son temps à photographier sa famille et notamment ses deux sœurs, Baba et Nancy. Robe en taffetas, panier en osier, imposant de faïence, Cecil Beaton les transforme en actrice idéalisée du 19e siècle. Mais par manque d'expérience, ses photographies ne reflètent pas vraiment ce qu'il avait en tête. Problèmes de mise au point, mouvements imprévus dans la chambre noire, le jeune Cecil doit encore travailler. Il déambule alors à Covent Garden où il achète des tissus, des imitations d'écailles de poisson ou de peau de léopard. Beaton affine son style et se constitue une petite clientèle parmi les personnes aisées de Londres. Dans les années 20 et 30, se faire prendre en photo est très prisé. Cecil Beaton se nourrit de ses voyages pour enrichir ses photos. Les intérieurs dorés d'églises mexicaines, les antiquités de la 3e avenue à New York, les objets du quotidien se transforment en accessoires de photos. Durant sa carrière, il n'est pas rare de voir certaines femmes élégantes, bourgeoises, poser pour lui entourées de moules à gâteaux, de batteurs électriques ou encore de ressorts de sommiers métalliques. Il réalise des clichés toujours plus fantaisistes. Une femme est flashée devant un décor de ballon, un autre modèle laisse juste apparaître son visage dans un tronc d'arbre, une troisième est mise sous cloche. Le travail de Beaton interpelle. En 1927, alors que la future reine Elisabeth souffle sa première bougie, Beaton a quant à lui 23 ans. Il enflamme les pages mode du cultissime magazine Vogue. Il affûte sa griffe de photographe. Son travail sur la lumière magnifie ses modèles. Il n'a qu'un seul objectif, idéaliser les mannequins. Leur grain de peau doit être lisse et blanc comme du marbre, leur posture quasi aérienne. Ces femmes ne sont pas de simples modèles, elles sont à ses yeux, et il l'espère aux yeux des lecteurs, des déesses. Sa carrière décolle. Beaton passe son temps entre Londres, New York et Paris à immortaliser les plus beaux mannequins de la planète. Et son style romantique, un brin désuet dans un monde qui bouge en permanence, va séduire une femme en particulier, celle qui deviendra Queen Mum, la mère de la future Elizabeth II. En 1939, la guerre gronde et l'Empire britannique est menacé. Certains États du Commonwealth supportent de moins en moins la domination anglaise. La famille royale doit reprendre les choses en main. Il faut montrer au monde que la monarchie est ce qui existe de mieux en ces temps troublés. Pour redorer l'image des Windsor, la reine Elizabeth fait appel à Cecil Beaton en juillet 1939. Elle le choisit pour une série de photographies d'elle-même, notamment dans les jardins de Buckingham. Le coup de com' est réussi. Elle apparaît sur les clichés, forte et douce à la fois, et dans les années qui suivent, c'est sa fille, Lilibet, qui va enchanter le célèbre photographe.
Pourtant, ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer, sachant que la Seconde Guerre mondiale vient d'éclater.
Absolument, Mathieu, parce que pendant la guerre, Cecil Beaton travaille pour le ministère britannique de l'information. Pendant 4 ans, il prend près de 30 000 photographies pour montrer les atrocités des conflits. Mais il n'est jamais très loin du pouvoir puisqu'il parvient à shooter les destructions du palais de Buckingham lors des bombardements. Fasciné par la monarchie, il décroche la mission de photographier la famille royale. Il réalise ainsi ses premiers clichés d'Elizabeth alors qu'elle n'a que 16 ans en octobre 1942. Il l'immortalise dans son nouvel uniforme de colonel des grenadiers, une casquette sur la tête, tout sourire. L'objectif n'est pas de faire des photos souvenirs, mais de montrer que la Royal Family fait front. Aucun membre ne fuit la ville, au contraire. Son portrait de la future reine, posant devant un tableau de Fragonard, fait même la couverture de Life en février 1943. Pendant plusieurs années, Cecil Beaton immortalise les étapes de la vie d'Elizabeth. La naissance du prince Charles, puis celle de la princesse Anne. Beaton est de tous les instants royaux, même les plus intimes. Alors qu'Elizabeth souhaite se montrer plus proche de son peuple, en déménageant notamment à Clarence House, Beaton est invité à prendre des clichés, reflétant une vie simple, loin des ornements dorés de Buckingham Palace. Mais ne vous y trompez pas. Tout est minutieusement préparé. Aucune photo n'est prise au hasard. Les photos sont pour la reine de redoutables armes de communication. Parallèlement à son travail de photographe officiel de la famille royale, Cecil Beaton est un homme orchestre. Il est tout aussi capable de photographier la vie underground de New York que de devenir chroniqueur ou faire sensation au théâtre et au cinéma. C'est à lui que l'on doit notamment les décors et les costumes dans My Fair Lady avec Audrey Hepburn. Les stars le fascinent, il les a toutes capturées. Marlene Dietrich, Greta Garbo, Johnny Weissmuller, Winston Churchill, Marlon Brando, Truman Capote, Andy Warhol, Barbara Streisand et même le grand Charles de Gaulle. En octobre 1968, Beaton photographie deux personnages diamétralement opposés, Mick Jagger et la reine Elizabeth II, dont il a immortalisé le couronnement en juin 1953. Là, c'est la dernière fois qu'il aura le privilège de faire une séance avec Sa Majesté. Lui souhaite plus de vérité dans ses portraits. Elle veut maîtriser son image et ne laisser passer aucun sentiment. Il parvient cependant à la saisir dans un simple manteau noir pour faire ressortir sa force et son humilité. La même année, il est le premier photographe au monde à avoir une exposition consacrée à son travail à la National Portrait Gallery de Londres. Et en 1972, Cecil Beaton est enfin anobli par la reine. Chapeau, sœur.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de la reine d'Angleterre et de celui qui l'a immortalisée, nous avons le plaisir d'accueillir l'écrivaine Irène Frein. Bonjour Irène.
Bonjour.
Bonjour Irène Frein, vous êtes romancière, faut-il le rappeler. Votre dernier livre, Un crime sans importance, publié au Seuil, a reçu le prestigieux prix Interallié. Vous avez signé dans la revue Légende un article très touchant à propos de la reine. On va l'aborder, mais avant cela, revenons peut-être à Sir Cecil Beaton. Est-ce que ces photos et la façon dont il a immortalisé la reine ont façonné sa légende et vous ont peut-être marqué vous-même?
Oui, Stéphane, quand je les ai découvertes, je crois que j'avais pas 10 ans, et Cecil Beaton avec l'art de jouer d'une lumière dans les transparences, notamment dans les vêtements. Il était très attentif au choix des étoffes que portaient les personnages royaux ou princiers. Et non seulement j'ai été sensible enfant à la dignité, c'était des personnages de pouvoir royal, mais aussi nimbé d'une extraordinaire poésie.
Mmh. Oui, il les rendait presque irréels, c'était très poétique,
oui.
Notamment sur la reine-mère. D'ailleurs, on sait qu'il retouchait les photos de la reine-mère pour lui enlever quelques kilos, parce que elle se trouvait un peu
Stéphane
trop...
Stéphane, vous salissez tout.
Non, je salisse au contraire. Le but, c'était de sublimer les personnages, n'est-ce pas?
Absolument. Il y a eu aussi des photos très tendres qu'il a réalisées avec Elisabeth et son fils Charles, non seulement penché sur le berceau, mais en même temps jouant avec lui, ce qui est une image extrêmement rare, puisque la reine n'était pas du tout habituée à manifester sa tendresse, ou il arrivait à obtenir d'elle beaucoup de choses jusqu'au moment où dans les années 60 ils ont divergé sur l'image très belle avec la cape noire d'amiral, qui est la dernière photo qu'il fait d'Elisabeth, est un miracle parce qu'elle n'était pas du tout d'accord avec sa façon de photographier. Elle voulait une image différente. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont séparés.
Votre relation, vous, avec la reine, on peut dire que c'est à travers les images que vous l'avez découverte, que vous avez tissé ce lien avec elle, qu'elle vous a fasciné.
Tout à fait, parce que, et je crois que ça a été général, avant, on n'avait pas beaucoup d'images des souverains, quels qu'ils soient d'ailleurs. Souvenez-vous que, par exemple, au XVIIIe siècle, on ne savait à quoi ressemblait le roi que par la médaille, le profil de médaille. C'est comme ça que Louis XVI a été arrêté à Varennes. Et petit à petit, on a diffusé des images. La reine Victoria avait compris que c'était très important d'être présent dans le peuple à travers les photos. Mais ça s'est vraiment développé que dans les années 30. Et dans les années 50 et 60, alors là, il y avait vraiment un début d'extraordinaire profusion. Et ça n'a cessé de croître et embellir, ce qui fait que ça a créé tous ces bouleversements dans l'institution monarchique, c'est-à-dire, qu'est-ce que va véhiculer l'image? Est-ce que ça va être négatif ou positif?
À propos d'image, vous évoquez dans la revue Légende votre première rencontre, si je puis dire, avec la reine à l'âge de 8 ans. C'était un numéro de la semaine de Suzette.
Oui, tout à fait. Je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Et donc, c'était inspiré de photos. C'était un genre de bande dessinée qui n'avait pas de bulles. Oui. C'est-à-dire, le texte était adapté pour les enfants. Il était très bien fait. Et l'image qui m'a la plus frappée, c'était la reine dans son carrosse, allant avec cette couronne. Et là, moi, je me dis, mais elle est fantastique, cette couronne, elle ne ressemble pas à celle de la méchante reine dans Blanche-Neige. Et la méchante reine, moi, je l'adorais, figurez-vous. Parce que je trouvais qu'elle avait, un chic fou, un look extraordinaire avec sa robe noire. Et honnêtement, je préférais la couronne de la méchante reine au petit nœud un peu nunuche de Blanche-Neige. Et là, je me suis dit, une reine peut être un intermédiaire entre la méchante reine avec son look qui en jette, et puis Blanche-Neige, qui est quand même un personnage positif. Et ça me rassure parfaitement. Et ma passion pour la reine commence là.
Dans le quatrième numéro de la revue Légende, consacrée évidemment à Elisabeth II, vous commencez par ces mots. « Ma reine, une passion secrète, j'ai cru longtemps être seule à l'aimer. » Vous allez vite vous apercevoir que vous n'êtes pas seule. Et vous pointez du doigt une chose, c'est que la femme va prendre le pas sur la figure sacrale, la faute à ce que vous appelez le ver médiatique. Comment les médias en sont venus à, quelque part, contaminer la figure monarchique?
Je crois que c'est à partir du moment où le palais a commencé à diffuser des images de vie quotidienne.
Oui.
Donc l'idée, paraît-il, était du prince Philippe de rapprocher la famille royale de ses sujets. En fait, ça crée l'effet complètement inverse, c'est-à-dire que le peuple britannique avait besoin de sacralité. En réalité, ce qu'un très grand historien a démontré à peu près à la même époque, c'est que le souverain, homme ou femme, a deux corps. Il a le corps, son corps réel, d'humain, et puis un corps qui est le corps du royaume et peut-être aussi le corps mystique, c'est-à-dire qu'un roi, à l'origine, il est un être intermédiaire entre le divin Et les humains.
Mais c'est d'autant plus vrai que c'est une monarchie sacrale, peut-être la dernière d'Europe. La reine est ointe par les saintes huiles.
Absolument.
Mais alors, à un moment, il y a une éclipse solaire dans votre amour pour la reine. C'est dans les années 70. Tout d'un coup, vous la voyez comme une matriarche renfrognée, engoncée dans des principes d'un autre temps, et vous n'aimez pas ses chapeaux, visiblement.
Bah, c'est-à-dire que, vous savez, les années 70, c'est quand même des années assez rock'n'roll. Hein. Oui. Bon, moi, j'ai 20 ans. Vous imaginez, c'est quand même l'époque de la grande libération des mœurs et une révolution de civilisation. Et oui, elle me paraît un dinosaure. Mais en même temps, c'est pour ça qu'elle va commencer à m'intéresser d'une autre façon. C'est-à-dire que je me suis dit, à ce moment-là, c'est une tribu à part, une survivance tribale dans l'Europe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les us et coutumes de cette tribu. Et j'ai commencé à regarder ça un peu comme Lévi-Strauss, que j'avais beaucoup lu, étudiait les mœurs d'une tribu amazonienne. Hein, et là, ça m'a passionnée. Comment le monde extérieur cerne cette tribu et que cette tribu est tentée de vivre comme les autres et d'enfreindre les règles.
Mais en même temps, ça fascine les gens que nous sommes.
C'est complètement fascinant.
C'est-à-dire de voir, par exemple, pour les funérailles du prince Philippe, 13 millions de personnes en Angleterre qui regardent, autant partout dans le monde, qui sont fascinées par cette tribu, justement.
Oui, c'est ça.
Parce qu'elle conjugue au présent des traditions millénaires.
C'est-à-dire que on a envie de s'enraciner. Cette cérémonie des obsèques du prince Philippe était une cérémonie médiévale. Et je trouvais que le fait que cette crise sanitaire ait réduit à très peu de personnes, et également ce lieu qui est d'une architecture si sobre, on était dans le médiéval et dans le médiéval, dans ce qu'il a eu au moment des guerres ou des épidémies, de plus tragique. Et il y avait quelque chose de l'épure du Moyen-Âge.
Donc d'assez rassurant, surtout que...
On se dit, on appartient à une continuité. Et quand on est bousculé, comme on est bousculé maintenant, par l'actualité et les catastrophes tous les jours, on est enraciné. Les humains, pour aller de l'avant, ils ont besoin de se raccrocher à des racines.
Et donc vous, après les années 70, après avoir dansé sur les Sex Pistols, vous revenez vers la reine d'Angleterre, vous écrivez « Le plus beau, dans ses tâches protocolaires, même les plus assommantes, se faire présenter par exemple chacun des 150 invités à ce dîner, pas un seul début de mécanique, comme sur les images qui m'avaient fait tant rêver, elle maîtrisait à la perfection le paradoxe du monarque idéal, présence et distance, grâce et majesté, je me suis alors dit, quoi qu'il arrive, elle tiendra. Quoi qu'il arrive, elle tiendra. Qu'est-ce qui la rend immortelle, finalement, la reine Elisabeth II ? Elle était faite pour ce rôle. Hein.
Oui, alors, c'est sa présence. C'était en 1992, Annus Horribilis. Je me dis, je vais voir la reine, c'est une petite expérience. Je me dis, je suis toujours dans l'idée du dinosaure. À l'instant où je la vois, pas du tout.
C'est quoi,
dinosaure.
C'est un charisme
c'est un charisme, c'est une façon de se tenir, c'est une façon de porter la couronne. C'est-à-dire qu'elle commençait quand même à vieillir, mais elle apportait aussi bien que sur mon petit numéro de la semaine de Suzette. Et elle incarne, elle est présente, absente. Elle est là pour vous, mais elle n'est pas là non plus. Et donc, elle est à l'intersection très exacte de ce qu'est la fonction monarchique depuis les origines, le divin et l'humain. Et ça, c'est saisissant. Et à ce moment-là, je me suis dit, une femme, et je pense qu'elle devait avoir 60 et quelques, 65 à ce moment-là, qui fait ça depuis l'âge de 23 ou 24 ans, qui, ça faisait quand même une belle carrière déjà. Elle avait, ici, on aurait réclamé l'âge de le départ à la retraite. Et donc, qui fait ça, c'est nécessairement quelqu'un qui va durer. Et ça devait être quand même assommant de se faire présenter des gens parfaitement connus d'où j'étais et qui vous regardent comme ça en étant saisie.
Peut-être ce qui est fascinant, et c'est ce que vous racontez dans l'article, elle est un mythe vivant, donc on la regarde comme ça, pétrifiée. Et en même temps, c'est une femme comme les autres, une grand-mère comme on adorerait en avoir.
Oui, parce que ce qu'on a découvert au fil des années aussi, y compris dans les cercles intellectuels qui ricanaient à n'en plus finir, donc j'avais été dans mes années Sex Pistols, si vous voulez, c'est qu'elle est très intéressée par les autres. Et quand on y réfléchit, ça tombe sous le sens. Vous pouvez pas faire ce boulot si vous n'êtes pas un intérêt pour les autres. Vous pouvez pas être aimé à ce point, parce si c'est le seul fait des images, il y a quand même une humanité. Et puis, je dirais, c'est pas du tout à la mode, évidemment. Ça va peut-être paraître absolument inconvenant, mais le sens du devoir. Mmh. Et ça, le sens du devoir, ça nous fait quand même plutôt défaut.
Oui. Ah, oui,
et notamment, j'ai trouvé que le sens du devoir n'était peut-être pas absolument respecté par certains outre-Atlantique, là, face au Pacifique. Mais bon, c'est une autre histoire.
En tout cas, merci beaucoup, Irène Frand, d'avoir été avec nous cet après-midi. Grâce et Majesté, c'est le magnifique texte que vous signez dans le magazine Légende, qui est à mettre entre toutes les mains. C'est le numéro 4 avec la reine en couverture.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret, même lorsqu'il s'agit des secrets les mieux gardés au monde. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, en réalité, c'est plutôt le problème inverse. C'est-à-dire que ne savons-nous pas, qu'ignorons-nous de la reine d'Angleterre dont nous voulons tout savoir? Est-elle vraiment l'une des femmes les plus riches au monde? Est-ce qu'elle paye des impôts et combien?
Hein? Ah oui,
où est-elle en ce moment même? Et
quelle
sera...
à Windsor.
Oui, ça certainement. Quelle sera la couleur du chapeau du jour de Her Majesty the Queen? Jaune, fuchsia?
Ah ben maintenant, je crois que ça va être un peu noir.
Plutôt noir. Mais vous savez qu'elle en aurait porté dans les 5000, on le sait, ça, depuis le début de sa vie publique. Et cette question du type de chapeau, de sa couleur, à l'occasion de chacun de ses déplacements officiels, est un sujet absolument crucial, parce que ça fait l'objet de paris chez les bookmakers. Quelle sera la couleur du chapeau de la reine aujourd'hui, bien sûr? Son sac à main, toujours le même modèle.
Ah, toujours?
Et oui, le sac fétiche de la maison Lommer qu'elle porte depuis 50 ans. On a tellement l'habitude de la voir avec son sac à main qu'on a presque l'impression qu'il lui est greffé dans le creux du coude. Elle le porte comme ça, le bras plié. Elle en posséderait 200, vernis, beige et noir. Un modèle spécial qui est fait pour elle seule. Elle est la seule à avoir le droit de le porter et dont elle reçoit 5 exemplaires par an. Mathieu, je vois que vous brûlez de savoir ce que contient ce sac à main.
Il y a un mouchoir, des biscuits pour chien, un tube de rouge à lèvres.
Pastilles de menthe. Et mots croisés. Parfois, vous voyez, Stéphane connaît bien le contenu du sac à main de la reine. On dit d'ailleurs que Sa Majesté utilise son sac à main pour se sortir de certaines situations embarrassantes auxquelles elle souhaite mettre un terme. Par exemple, si au cours d'un dîner, elle le pose sur la table...
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'elle souhaite que le repas se termine au plus vite. Hein.
Elle ne l'a pas tellement pendant les dîners, c'est pendant les audiences. Oui. Quand elle sort son sac à main qui est par terre, à ses pieds...
Elle le pose, vous venez de sortir de là, ça veut dire,
je crois qu'on s'est tout dit.
Si elle est debout et qu'elle pose au sol son sac à main, c'est qu'elle demande qu'on vienne au plus vite la sauver d'une conversation trop laborieuse. De l'avis d'Adam Elicker, qui est un spécialiste de la famille royale, l'une des choses qui paraît-il depuis toujours rend la reine la plus malheureuse, c'est le silence qui s'installe dès que les gens la voient rentrer quelque part. Et ils préfèrent fuir plutôt que de commettre une erreur protocolaire. Et en fait, ce respect ne fait que l'isoler davantage encore. Alors, what else, bien sûr, on connaît toutes les petites manies de la reine. On dit que quel que soit le château où elle réside, ça c'est bien connu, qu'elle va de pièce en pièce, éteint l'électricité, bien sûr, et que pour cette même raison, elle aurait refusé que l'on change les casseroles de Buckingham Palace. Et oui, quand il s'agit de la reine, tout fait sujet. Et vous savez qu'on connaît même les petits noms que lui donnait son mari. Lily Bess, Cabbage, mon chou, ou même Sausage, petite saucisse.
Ah, petite saucisse, vous voyez, c'est mignon ça.
Non mais vous voyez, la reine d'Angleterre est vraiment un être à part dont nous exigeons de tout savoir. Mais si elle a eu dans la vie tout ce qu'elle pouvait désirer, de quoi peut-elle bien rêver? Et si c'était tout simplement le droit au secret, à l'intimité, à l'incognito? Eh bien, une fois dans sa vie, elle a eu l'occasion de vivre un vrai moment d'incognito, de partir seule avec sa sœur dans Londres et de s'y promener jusqu'à point d'heure. C'était des circonstances très exceptionnelles, puisque c'était le 8 mai 45, jour de la capitulation allemande. Alors ce jour-là, elle apparaît au balcon de Buckingham Palace entre ses parents et Churchill, mais ça suffit pas. Elle a 18 ans, elle brûle d'envie, bien sûr, d'aller partager la liesse populaire dans les rues de Londres. Alors elle fait le siège de son papa en disant « mais laissez-moi sortir en ville, aller me promener, aller partager cette joie » et son père accepte. Donc elle part dans la rue avec sa sœur Margaret, sa cousine Margaret Rhodes et une dizaine de camarades, filles et garçons. Et le petit groupe sort discrètement par une porte dérobée à l'arrière du palais et se jette joyeusement dans la rue. Élisabeth est vêtue de son uniforme d'auxiliaire de l'armée, alors elle enfonce sa casquette bien sur son visage pour qu'on la reconnaisse pas, mais elle croise un supérieur hiérarchique qui lui dit « mais mettez ça de façon réglementaire ». Et donc, en tout cas, elle parle dans la rue, elle participe à des farandoles, elle vient même acclamer sa famille sous le balcon de Buckingham, ce qui devait être pour elle une scène tellement inhabituelle de voir sa famille là comme les Anglais de l'Angleterre d'en bas, comme on dirait. Bon, alors elle participe à des farandoles dans la rue. Elle écrira par la suite dans son journal: Trafalgar Square, Piccadilly, Pall Mall, j'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres, j'ai fait la fête au lit à 3h du matin, c'était une marée de bonheur. Quelques jours plus tard, le 14 mai, qui est le jour de la capitulation du Japon, elle pourra une seconde fois échapper à la vigilance de ses parents et se promener dans Londres. Et elle rentre à 2h du matin après avoir dansé à la queue leu-leu. Qu'elle orthographie dans son journal en un seul mot, à la queue leu-leu. On dit que parfois elle arrivait, quand elle voulait voir une pièce de théâtre dans Londres, elle arrivait quand la pièce avait déjà commencé, elle s'asseyait discrètement devant, puis se faufilait. C'est bien sûr certainement une contrainte inimaginable pour
nous. Oui, parce que dès que vous entrez quelque part, les gens se lèvent, se mettent, chantent l'hymne, des choses comme ça, donc... C'est vrai que c'est difficile d'avoir une vie ordinaire. Ce qui va être difficile pour elle, c'est que la seule personne à qui elle pouvait raconter ses petits secrets l'a quittée.
Elle n'a pas une confidente ou un confident?
Elle a une dame d'honneur, Lady Susanna Hussey, qui l'accompagnait d'ailleurs dans la Daimler le jour des funérailles du prince Philippe.
Quiz de haut niveau en perspective, puisque vous connaissez très très bien le dossier. C'est un quiz spécial Reine d'Angleterre aujourd'hui, évidemment, pour les 95 ans de la reine.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
C'est le propre des grands conflits que de ne jamais connaître de trêve. Même le jour des 95 ans de la reine, Stéphane et Clémentine vont s'affronter une fois de plus dans l'épreuve du quiz. Pas de pitié, pas de quartier, Stéphane. Clémentine va vous battre, elle l'a juré.
Sur le caleçon de Saint-Exupéry.
C'est dire sa farouche détermination. Jouons à Verne to be alive spécial aujourd'hui. Ses désirs sont des ordres, elle nous l'a demandé. On l'a fait, un quiz entièrement consacré à la reine Elisabeth II. La Queen veut simplement vérifier que vous la connaissez aussi bien que vous le prétendez, Stéphane.
Non, mais première je prétends question. Rien du tout, moi, monsieur.
Question numéro 1 pour vous. Je ne vous apprendrai pas, Stéphane, la passion que la reine a eue, qu'elle a toujours d'ailleurs pour ses corgis et ses dorgis. Les dorgis sont une race de chiens. Elisabeth est à son origine car elle a croisé ses corgis avec un teckel. Vous dites perversion, je dis amour de la nature. Elisabeth II a depuis mars dernier deux nouveaux compagnons à quatre pattes. L'un s'appelle Mouik et l'autre Cyrus, en hommage à l'étoile du même nom, car son Altesse a une passion pour le cosmos. Vrai ou faux?
Alors, je connais pas le nom des deux nouveaux chiens qui sont entrés dans la vie de la reine Elisabeth. Je sais qu'elle a deux dorgis qui sont effectivement un mélange de corgi, qui est de Welsh Pembroke Corgi. C'est la race sont des chiens de berger gallois et qu'on a mixé avec des Dachshunds, qui est l'autre nom de teckel.
Alors là, on n'a jamais été aussi pointu.
En fait, ça vient de Deckel, qui est le nom des Dachshunds qui arrivait de Saxe-Cobourg-Gotha. Et c'est la reine Victoria qui aimait beaucoup ses chiens. Et c'est pour ça que j'ai adopté moi-même des teckels.
Ah, magnifique, ça vaut au moins deux points.
Hein. Là, on est sur du deux points.
Donc, je m'incline devant le
mystère.
Normalement, c'est vrai, mais j'ai un doute s'il y a un piège, c'est sur le nom des deux dorgis.
Alors, répondez tout de même. Oui, vrai ou faux?
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Vous avez...
Il a perdu après avoir donné la généalogie des chiens. Je vous donne le point. Peu importe ce que dit la régie, je donne le point. C'était trop beau comme réponse. Ouais. Non, alors c'était faux. Je pense que c'est sur les noms. Elle a effectivement une passion pour les étoiles. Elle a effectivement deux nouveaux corgis depuis mars, mais elle a appelé le deuxième Fergus en hommage à son oncle Fergus Bowes, mort au combat.
Oui, le piège était. Merci parce que le piège était vraiment honteux.
C'était vil. Oui, mais en même temps, je pense que la personne qui conçoit le quiz s'est dit que vous étiez tellement fort en reine Elisabeth II qu'il fallait quand même vous mettre des pièges partout. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. La reine a anobli beaucoup de personnalités durant son règne. Parmi elles, Carlos Ghosn, Elizabeth Taylor, Barry Gibb des Bee Gees et Agatha Christie. Vrai ou faux?
Carlos Ghosn, ça me paraît curieux, ça. Elle aurait anobli Carlos Ghosn. Les autres, refaites le meuleux, là. Elizabeth Taylor, oui.
Carlos Ghosn, Elizabeth Taylor, Barry Gibb des Bee Gees. Staying Alive. Et Agatha Christie, vrai ou faux?
Agatha Christie, oui, je pense qu'elle a, bien sûr. Et ce qui me gêne, c'est Carlos Ghosn.
Ça vous gêne, Carlos? Mais c'est C'est peut-être avant.
Oui, enfin, avant vu qu'on a, nous, on a bien donné la Légion d'honneur à Ceausescu et.
On n'a pas le choix avec les chefs d'État. C'est des échanges protocolaires de décoration.
Carlos Ghosn, à quel titre aurait-il eu la Légion d'honneur ?
Les accords Nissan, l'automobile.
Aurait-il été un obligé ? Non, je dis non. Non, je
vous
dis
dites non.
Vous avez perdu.
Eh bien, c'était pourtant vrai. Tous ces gens ont été anoblis par la reine Elisabeth II, me demandez pas pourquoi. Tous les ans, la reine peut anoblir les personnalités de son choix, comme Bono, le chanteur de U2 en 2009. Mais lui, Bono, il ne peut pas se faire appeler sœur, car il vient d'Irlande du Sud, qui s'est retiré du Commonwealth en 49. Donc, il est noble, mais on ne dit pas sœur.
Carlos Ghosn a été anobli.
Il a reçu, en fait, ils ont dû recevoir Knight of the British Empire. Mais c'est le titre de
chevalier.
De chevalier, ouais. Mais voilà. Donc, avec le droit pour les femmes de s'appeler Dame, et pour les hommes, d'être sœur.
Et vous avez quoi comme titre ?
Moi, je suis chevalier de l'ordre de l'Empire britannique.
Ça, on peut dire sœur ? On dit sœur Berne ?
Non, pas du
on
tout.
On dit
parce
pas sœur Berne, ça serait
j'ai été chevalier, mais pas knighted. Ah, vous n'êtes pas...
Ça viendra peut-être un jour, mais il faut vous dépêcher.
Vous savez, oui. Mais je compte sur son fils pour suivre la tradition familiale.
Question numéro 3 pour vous, Stéphane. En 2019, le magazine britannique Hello a frappé fort. Il a publié un selfie de la reine. Vrai ou faux ?
Je crois pas, parce que je sais qu'elle a, on lui a fait des gants spéciaux pour qu'elle puisse lire sur sa tablette numérique, envoyer des SMS et envoyer des...
Parce qu'elle ne peut jamais retirer ses gants ? C'est protocolaire ?
C'est pas seulement protocolaire, c'est assez hygiénique, on le voit bien maintenant.
Elle avait un temps d'avance.
Oui.
Est-ce qu'elle a pu, à la faveur d'une rencontre peut-être avec des jeunes
Ça m'étonne qu'elle même ait fait un... Non, je dirais non.
Une perche à selfie, ça
aurait été sur la... Non, je crois pas. Je crois pas qu'elle l'ait fait.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, Stéphane. Évidemment, la reine n'a jamais pris de selfie. En tout cas, aucun n'a été publié. Mais en une de ce magazine, Hello, une photo de la reine, les mains dans les poches, à l'occasion de la sortie du livre d'Angela Kelly, habilleuse de la reine. On a appris plein d'anecdotes assez dingues. On a appris qui était chargé de porter les chaussures de la reine pour les faire un petit peu. Oui. Et ben, c'était Angela Kelly elle-même.
Sa styliste, en fait. Son habilleuse styliste, qui lui dessine d'ailleurs les tenues, qui les réalise et qui l'habille.
Et donc, la reine lui a souvent confié qu'elle rêvait de poser les mains dans les poches et elle a exaucé son vœu. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Personne n'est éternel. Quand Elisabeth II va disparaître, le prince Charles deviendra Charles III ou George VII, où il abdiquera au profit de son fils William, et tous les petits-enfants en ligne agnatique sont susceptibles de devenir prince et princesse du royaume. Mais c'est quoi, agnatique ?
Agnatique. Alors, quelle est l'orthographe ? C'est avec agnatique ? C'est un rapport avec un ordre de naissance, j'imagine. Est-ce que... ils sont susceptibles de devenir prince agnatique, c'est-à-dire d'accéder au trône, alors qu'avant, ils étaient dans un ordre trop éloigné, peut-être. C'est par le rang de naissance. Oui, mais alors la signification exacte, prince peut-être de naissance, je vois pas d'autre... je connais pas ce mot.
Vous avez... perdu.
C'est insuffisant. La régie décrète que c'est insuffisant comme explication.
Elle a mon dos, la régie.
Agnatique, c'est une filiation par les mâles, tout simplement. La filiation cognatique, c'est par les hommes et les femmes.
Et alors, pouvez-vous me donner l'étymologie latine d'agnatique et cognatique,
Monsieur. Le peux, et je vous la donnerai dès demain. Mais pour l'instant, je décrète que Stéphane Maire a remporté le quiz. C'est quand même la moindre des choses sur la reine Elisabeth II. Bravo Stéphane. Merci. Vous êtes vraiment aussi fort que je l'imagine. C'est pas peu dit.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'une édition très spéciale d'Historiquement vôtre, puisque nous célébrons aujourd'hui les 95 ans de la reine Elisabeth II en évoquant la vie de ceux qui l'ont immortalisée.
Oui, d'ailleurs au départ, je m'étais dit que c'était l'occasion ou jamais de faire votre portrait, Stéphane, vu que vous êtes un grand fan de la reine. Et puis, en consultant les archives audio de la station, je me suis souvenu des blagues très limites que vous aviez faites sur notre antenne.
Une reine n'est pas simplement un nom de pizza, qu'elle soit ou pas avec des champignons.
Je me suis dit non, ça vaut mieux, on va pas s'étendre sur le caverne finalement.
La reine, comme Dieu reconnaîtra les siens, Mathieu. Heureusement, ils sont nombreux à avoir immortalisé Elisabeth II. Après le photographe Cecil Beaton, je vous raconte l'histoire de Lucian Freud, le peintre, qui a eu la chance de tirer le portrait de Sa Majesté.
Eux aussi, ils ont quelque part tiré le portrait à base de riffs de guitare électrique de la reine Elisabeth II. S'ils avaient été français, ils se seraient appelés les pistolets sexuels et du coup, ça n'aurait peut-être pas marché très fort pour eux. Mais comme ils étaient anglais, ils se sont baptisés les Sex Pistols et ça l'a fait. C'est leur histoire que je vous raconte tout à l'heure à 99% près, évidemment.
Eux, ils sont à 100% avec nous. Nos chroniqueurs de talent, David Castello-Lopez, qui nous raconte les origines de Queen's English.
Voilà, de l'anglais de la reine qui est particulier entre les anglais qui sont déjà chic. C'est-à-dire, c'est un anglais qui se distingue de l'anglais de la BBC, par exemple.
Et vous, qui pouvez imiter à la perfection n'importe quel accent, vous avez le droit, légalement, de prendre l'intonation de la reine
ou Je crois qu'aujourd'hui, en 1710, ça aurait été peut-être plus problématique, mais aujourd'hui, ça va.
Mais il paraît, d'après les études, qu'il a baissé en qualité.
On va en parler.
Oui. Très grave, vous savez.
Oui, j'imagine, je suis assez choqué. On va parler également de gastronomie, d'histoire de la gastronomie avec vous, Olivier Pouls. Vous faites un petit gâteau pour la reine?
Bah oui, je pense que ce soir ou cet après-midi, je ne sais pas, à l'heure du thé, elle est peut-être en train de souffler ses bougies et probablement les souffle-t-elle sur un carrot cake.
Il y a plus de bougies que de gâteaux.
Bah oui, mais il faut un grand gâteau, mais je l'enlève avec beaucoup de proportions pour que vous puissiez en faire un très grand. Pareil que c'est son gâteau préféré.
Moi aussi, j'adore le carrot cake, il ne faudra pas vous rater, cher Olivier. Le mot de la fin reviendra à Sir Stéphane Bern, qui sera bientôt sœur. On milite pour que Stéphane soit définitivement anobli par la reine. Pourquoi les Anglais sont surnommés les roast beef?
Ben voilà, ils nous appellent les froggies. Et nous, on les appelle les roast beef. Pourquoi?
Oui, mais si vous voulez, c'est plus mystérieux les roast beef que les froggies. Parce que nous, effectivement, on mange des cuisses de grenouille. Donc ça, on comprend. Mais les roast beef.
Ça vient pas de là, vous savez, je l'ai raconté ici dans cette émission.
Vous avez raison, et je l'ai déjà oublié.
Bravo.
Parce que sur les bords de la Seine, il y avait beaucoup de grenouilles. Et oui, c'était des marques.
Et vous en souvenez.
Quelle belle mémoire.
C'est à moins des choses. Quoi. C'est vrai. Tout de suite, Stéphane Bern nous présente un peintre de renom qui avait représenté Kate Moss les jambes écartées. Il n'a pas demandé à la reine de poser dans cette position, mais le résultat n'est pas hyper flatteur non plus. Stéphane nous raconte l'histoire du peintre anticonformiste Lucian Freud.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Je peins ce que je vois. Pas ce que vous souhaitiez que je voie. Lucian Freud est comme ça. Le peintre n'a que faire de ce que les gens peuvent bien penser de ses œuvres, fussent-elles les plus hypnotisantes, dérangeantes, gênantes qui soient. Son plus célèbre tableau n'échappe pas à la règle. Son portrait de sa très gracieuse majesté est livré à Buckingham Palace en décembre 2001. C'était il y a 20 ans. Elisabeth II a 75 ans, mais c'est une monarque fringante. Et pourtant, Lucian Freud réalise d'elle un portrait où la reine apparaît ridée, fatiguée, bouffie, accablée, triste. Le menton proéminent, le nez élargi, la mise en pli exagérée, la couronne à deux doigts de lui rompre la nuque. La presse fustige l'artiste. Caricature choquante, portrait d'une marionnette, un choc et une catastrophe. Les titres des journaux sont unanimes. Pour son jubilé d'or, la Queen aurait peut-être mérité mieux, selon eux, mais que ce minuscule tableau la représentant, à mi-chemin entre le travesti et l'animal, un crime de lèse-majesté pour lequel Lucian Freud est même menacé d'enfermement à la Tour de Londres. Un comble pour cet homme qui très tôt a dû fuir son pays pour échapper à une mort certaine. C'est vrai que Lucian Freud est né en Allemagne en 1922, 4 ans avant Elisabeth, la future reine d'Angleterre. Ce juif allemand passe une enfance heureuse, il fréquente les écoles de Berlin et s'amuse pendant ses vacances d'été dans une petite maison familiale sur une île de la mer Baltique. Comme ses camarades, il aimerait lui aussi fréquenter les jeunesses hitlériennes, mais gentiment, ses amis lui précisent que ça ne lui plairait pas. Lucian ne s'en formalise pas. Comme Elisabeth II, il est passionné d'équitation. Il préfère monter à cheval que d'aller à l'école. Toute sa vie, il dira aimer la solitude et affirmera que le premier mot qu'il a prononcé est « allein », qui veut dire « seul » en allemand. À 12 ans, Lucian goûte d'encore plus près à cette solitude. Avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933, la famille n'a pas d'autre choix que celle de s'exiler en Angleterre. Lucian est rapidement intégré à la belle société londonienne et les Freud obtiennent en quelques années la nationalité britannique. Cela ne vous a pas échappé, Mathieu, Lucian Freud porte le même patronyme que le célèbre fondateur de la psychanalyse Sigmund Freud. Il s'agit tout simplement de son grand-père. Lucian l'adore. Avant leur départ pour Londres, ils se rencontrent souvent à Berlin. Sigmund y vient pour soigner son cancer. Décelant le coup de crayon prometteur de son petit-fils, il lui achète des reproductions en noir et blanc qui fascinent Lucian. Ce grand-père aimant qui le fait rire l'encourage à peindre jusqu'à la fin de sa vie. à Londres, Lucian intègre différentes écoles où il étudie la peinture. Il s'inscrit dans le mouvement surréaliste et en 1944, il expose pour la première fois dans une galerie à 15 minutes de Buckingham Palace. Mais la princesse Elisabeth n'a pas le loisir de visiter l'exposition. Au même moment, elle officie comme conductrice et mécanicienne d'ambulance dans l'armée britannique. Dans les années 50, Freud fait partie de l'école de Londres, aux côtés de Frank Auerbach, Léon Kossoff et Francis Bacon. Ces artistes qui se réunissent dans des cafés londoniens prônent une peinture figurative et humaniste. Lucian Freud est même choisi pour représenter le Royaume-Uni en 1954 à la Biennale de Venise. Pourtant, Lucian voyage peu. Il ne quitte presque jamais Londres. Ses journées s'écoulent sans surprise. Il peint un modèle de 8h à midi, se repose et reprend avec un autre modèle de 18h à minuit. Dans son atelier, la porte est toujours fermée. Il y règne une ambiance quasi sacrée où seuls quelques privilégiés sont autorisés à pénétrer. Les pièces ne sont pas grandes, elles sont éclairées par d'imposantes lampes industrielles. Les méthodes de Lucian Freud font beaucoup parler. Ses modèles dépeignent les séances comme des marathons sans fin. Pour un tableau, il leur demande en moyenne de venir une centaine de fois. Ils doivent tenir la pose des heures, sans bouger, sans parler. Car le peintre est d'une extrême lenteur. Il commence les portraits au fusain, en dessine les contours, part du détail pour ensuite aller vers les traits généraux. Il fait exprès de prendre son temps, de créer un malaise avec ses mannequins pour en extraire les moindres rictus. Imaginez-le, derrière son chevalet, très proche de l'homme ou de la femme qu'il dessine, respirant comme une bête, plongeant ses yeux perçants dans ceux de son modèle, il se donne corps et âme pour son œuvre. Ce qui m'intéresse vraiment chez les gens, c'est le côté animal, explique-t-il. Pas étonnant alors qu'un grand nombre de ses peintures soient des nus, des tableaux où le sexe féminin comme masculin est jeté frontalement au regard du spectateur. Il est fasciné par les corps difformes, les chairs, le gras, les bourrelets. En revanche, impossible, vous vous en doutez, de peindre la reine dans son plus simple appareil lascivement offert sur un sofa entouré de
corps. Vous êtes choqué à cette pièce.
C'est chien fidèle, mais au tempérament bien trempé. Non, Buckingham Palace a commandé à l'artiste un simple portrait, car c'est bien la firme Windsor qui est à l'origine du rapprochement entre Sa Majesté et ce peintre que certains disent tourmenté, voire un peu dérangé. Robert Fellows, le secrétaire privé de la reine, négocie avec Lucian Freud. Il le connaît bien et pourtant, 6 ans. Il aura fallu 6 longues années de tractation pour que l'artiste, qui avait déjà refusé de croquer Diana, daigne enfin donner son accord. Il exige que la reine se soumette à 72 poses. Sa Majesté refuse et propose pas plus de 5 séances. Hors de question non plus de venir jusqu'à l'atelier de Freud. Finalement, un terrain d'entente est trouvé. Le palais de Saint-James, plus proche de Buckingham Palace et Clarence House, accueille le peintre et son royal modèle. Les séances s'étirent entre mai 2000 et décembre 2001. On parle de 30 rencontres. Mais pourquoi la reine a-t-elle alors accepté de poser pour cet artiste si controversé ? En 2000, Elisabeth II fête ses 74 ans et sort d'une décennie difficile. Ses 3 enfants ont divorcé, son ex-belle-fille Diana est décédée dans des circonstances dramatiques sous le pont de l'Alma à Paris. Le peuple et la presse lui ont reproché de s'être montrée froide durant cette période, au moment de fêter ses 50 ans de règne, alors que le monde vient d'entrer dans un nouveau siècle, elle doit montrer un nouveau visage. Elle se veut plus que jamais moderne, ouverte à la critique et défendant même le sens de l'humour. Voilà pourquoi elle accepte de poser pour Lucian Freud. Et à ce sujet, elle est en accord parfait avec le peintre qui affirme à propos de son œuvre « Qu'est-ce que j'attends d'un tableau ? Qu'il étonne, trouble, séduise, persuade. » C'est plutôt réussi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Lucian Freud qui a immortalisé donc en peinture la reine d'Angleterre, nous sommes avec le journaliste Jean-Marie Durand, Stéphane.
Oui, bonjour Jean-Marie Durand, vous êtes journaliste, avez été pendant plus de 20 ans rédacteur en chef adjoint aux Inrecuptibles. Vous soulignez dans la revue Légende, consacrée à Elisabeth II, à laquelle vous avez également collaboré, le lien tout à fait singulier qui unit la reine au peuple anglais. Je vous cite, « Rien de sa vie ne sera étranger à celle du peuple anglais qui se raconte et se reflète à travers elle. C'est ce pacte inédit qui fait d'elle, en fait,
une icône pop.
Oui, c'est une icône pop dans le sens où elle, il me semble, elle sature un peu l'espace mental des Anglais depuis quand même tellement d'années, plus de 70 ans. C'est quand même assez inédit. Enfin, je vois pas d'autres exemples dans le monde où une personnalité puisse comme ça incarner un peuple sur une durée aussi longue. Enfin, voilà, c'est vraiment assez.
Il y a les timbres. Il faut pas oublier les timbres, les billets de banque, les pièces de monnaie. Ça fait beaucoup. Hein.
Voilà. Donc, elle est comme une sorte de lien social finalement en Angleterre. Donc, il y a quelque chose de populaire de fait mécaniquement. Mais il y a autre chose, je pense, qui fait d'elle une icône pop, c'est précisément le fait qu'elle reste aussi un peu une abstraction, c'est-à-dire un mystère, une femme dont on connaît peu de choses, à part vous peut-être, et dont on a du mal à imaginer ce qu'elle ressent. Et d'une certaine manière, je pense qu'elle est ce que j'appelle un corps à la fois plein et vide. Plein parce qu'elle est là tout le temps, quotidien, dans l'imaginaire des Anglais, des Britanniques, du Commonwealth. C'est une personnalité comme ça incarnée, forte physiquement, et en même temps complètement vide. On ne sait pas quoi en penser. Et donc du coup, elle génère, je pense, beaucoup de fantasmes et de projections. D'où l'idée qu'elle soit un peu une icône pop.
Pour vous, c'est ce paradoxe qui fait la fascination autour d'elle, le fait qu'elle soit par exemple la femme la plus photographiée au monde, en fait.
La plus photographiée au monde.
C'est quand même incroyable. Et pourtant, comme vous dites, on sait un peu de choses d'elle, mais on a du mal à imaginer ce qu'elle pense, par exemple. Donc c'est un peu contradictoire.
Pour paraphraser Paul Valéry qui disait qu'il n'y a rien de plus profond en l'homme que sa peau, je dirais qu'il n'y a rien de plus profond en elle que sa peau à elle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une surface complètement lisse qu'on observe, qu'on contemple, parfois avec beaucoup d'admiration. On adore ses tenues, ses bijoux.
Oui, c'est très coloré. Elle est très pop,
tout
finalement.
Elle est pop en soi, c'est vrai. Dans le choix des couleurs.
Dans le choix des couleurs, c'est vrai. Et puis, elle a, c'est vrai, ce grain de peau, ce teint de porcelaine qui paraît presque irréel.
Tout à fait. Et c'est vrai que vous parliez des couleurs, etc. Et c'est vrai que c'est pas non plus un hasard que le pop art, entre guillemets, et soit comme ça un mouvement artistique qui soit né en Angleterre, hein, à l'origine. Il est venu évidemment aux États-Unis ensuite. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec l'art d'Angleterre par rapport justement à son image, comme ça, à ce que j'appelle ce statut d'icône pop, c'est qu'en fait, il me semble, c'est l'hypothèse que je tire, je ne dis pas que c'est une interprétation absolue, hein, mais moi c'est comme ça que je l'interprète. Finalement, la reine d'Angleterre arrive au trône au moment où naît ce qu'on appelle aujourd'hui la société du spectacle, où finalement c'est plutôt la surface qui intéresse. Vous voyez, et donc du coup, d'une certaine manière, je trouve qu'il y a une homologie entre les deux, et d'une certaine manière, je dirais que la reine d'Angleterre est pleinement de son temps, de par cette justement cette présence-là dans cette société du spectacle. C'est pas un hasard qu'elle était en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la plus photographiée au monde. Comme personnalité, c'est vrai que c'est inouï, quoi. Alors, certes, des photographes un peu statutaires, Cécile Beaton, Annie Leibovitz, etc., mais bon, elle est quand même très, très représentée. Vous parlez du portrait de Lucien Freud, qui est évidemment une image extrêmement, j'allais dire, forte de son histoire.
Un peu déformée, mais qui en même temps montre la puissance émotionnelle et fantasmagorique de la reine. Et je crois qu'elle a adoré le portrait.
Elle a adoré le portrait. Il n'y a pas eu de polémique parce que vous citiez des journaux
évidemment
qui étaient scandalisés.
Les tabloïds étaient scandalisés. Mais elle-même, ça l'a amusée. Elle a trouvé ça intéressant. Et puis en plus, le tableau est exposé. Enfin, d'abord, il est connu dans le monde entier. Donc, il a eu son effet. Et ensuite, il a été exposé au National Portrait Gallery, où il a un succès fou. Enfin, quand les musées sont ouverts.
Je trouve d'ailleurs que c'est le fait d'accepter de se faire peindre par Lucien Freud, c'est quand même malgré tout pour une reine assez impressionnant, parce que c'est vrai que le comme vous l'avez dit tout à l'heure très justement, le tableau est quand même pas très très valorisant, il est quand même un peu âpre, un peu dur, un peu violent pour elle. Elle joue tout le temps de son image, j'en parle dans le papier quand la célèbre image des Jeux Olympiques de Londres, la cérémonie d'ouverture où elle s'amuse
à sauter en parachute avec James Bond,
enfin c'est quand même elle a le sens du jeu, quoi. Vraiment, elle a le sens de l'ironie à l'anglaise pour le coup, et je trouve ça assez singulier.
Pas d'ego, justement, le fait d'être la femme la plus photographiée au monde, on n'a pas d'ego. Par exemple, ce qui est amusant, c'est l'autre jour, elle a inauguré à distance, par visioconférence, une statue d'elle chez le gouverneur d'Australie, et elle dit plein d'ingénuité, elle dit et dire que vous allez devoir passer devant ça tous les jours.
Elle a un humour british, finalement.
Elle a un humour, elle se moque d'elle-même.
Absolument.
Mais et pourtant, tout le monde. En fait, c'est nous le regard des Britanniques est beaucoup plus figé. Ils veulent un portrait un peu académique, en fait.
Absolument.
Mais il y a une chose, j'avais vu ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour les 60 ans de règne, il y a eu un grand concert pop, d'abord un concert classique, puis ensuite un concert rock. Et tous ceux qui l'avaient moqué, je ne parle pas des Beatles, je ne parle pas des Rolling Stones, mais enfin certains, ils sont tous retrouvés là. De Keith Richards jusqu'à Mick Jagger,
les rockers
ils étaient tous là à jouer pour la reine. Comment vous expliquez ce retournement soudain?
c'est précisément parce qu'elle est une icône pop et qu'aujourd'hui elle suscite, alors j'imagine que en Grande-Bretagne il y a encore des gens un peu rétifs à l'idée de la monarchie, etc. Ça évidemment ils existent, mais c'est vrai que aujourd'hui elle est considérée presque comme la mère un peu de tout le monde, et finalement même un guitariste comme Eric Clapton ou j'en sais rien, comme qui voulait, comme Bono, enfin tous ceux que gens qu'elle a reçus, parce que c'est vrai que tous les chanteurs les plus populaires sont passés quand même à Buckingham Palace et ont eu comme ça l'honneur de lui serrer la main, parce que la poignée de main,
pour certains s'en fait anoblir
et ont
accepté.
Mick Jagger, par exemple.
Keith Richards, d'autres.
Oui, donc il y a quelque chose quand même qui est une sorte de monument absolu. Et c'est vrai que la reine, on a beau l'avoir moquée, on n'a pas parlé de ça, mais évidemment, les Sex Pistols en 77, même ça, l'héritage punk, il s'est un peu effacé. Il est évanoui. Il n'y a plus grand monde qui aujourd'hui ose attaquer la reine. Elle est inoffensive, quoi. Tout le monde l'aime, d'une certaine manière.
Il y en a un qui sera peut-être pas anobli tout de suite, quand même, puisqu'il a chanté.
Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine.
C'est notre. Bouchez-vous les oreilles, Stéphane. C'est Philippe drôle. Catherine, le génial Philippe Catherine, qui lui aussi rend hommage à sa manière.
Vous savez, par exemple, Andy Warhol, vous savez, les portraits de souveraines. Andy Warhol avait commencé à faire les quatre images comme ça iconiques d'Elisabeth II. Mm-hmm. Et ensuite, toutes les autres ont demandé à voir la même chose. Mais c'est incroyable de voir que ça fascine autant les artistes pop, en fait.
Tout à fait.
En tout cas, les deux corps de la reine, c'est votre article à lire dans la revue Légende, Jean-Marie Durand, qui consacre son quatrième numéro à Elisabeth II en retraçant de la plus belle des façons sa vie, son règne. Et Légende est en partenariat avec Europe 1. J'annonce aussi la publication demain d'un cahier de tendance 2021 chez l'Aube et d'un livre d'entretien avec Blandine Rinquel, Tout tremble au PUF, et ça c'est prévu début mai.
Merci, oui, tout à fait.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, à l'occasion des 95 ans de la reine d'Angleterre, on évoque ceux qui l'ont immortalisée. Après un photographe et un peintre, Mathieu, vous nous racontez la carrière d'un groupe londonien qui a bouleversé à jamais le célèbre God Save the Queen.
Oui, Stéphane, les pistolets sexuels, en français on dirait un album de Titeuf, quelque chose de rieur et gentillet. Hélas, les Sex Pistols sont anglais et ils incarnent l'essence même de ce qu'on a appelé le punk. Ce courant musical qu'on peut situer, pour schématiser si vous voulez, aux antipodes d'André Dassary. Un groupe incarné notamment, j'essaie de situer pour Stéphane, un groupe incarné notamment par deux garçons no limites surnommés Johnny Rotten et Sid Vicious. Leur version de God Save the Queen, sortie immédiatement et censurée tout de suite en 77, est un véritable crime de lèse-majesté, nous l'analyserons ensemble. Pourtant, si on veut être rigoureux historiquement, Sid Vicious et ses copains punk ne sont pas les seuls à avoir manqué de respect à la reine Elisabeth II. En 2002, Vicious Bern, un animateur télé du service public, était allé encore plus loin dans l'irrévérence en détournant l'image de la reine pour les besoins d'un vulgaire spot publicitaire au scénario indigent.
J'ai fait une pub dans mes jeunes années où je proposais un prêt à la poste à la fausse reine d'Angleterre, mais elle habite Villeurbanne. Et elle me répondait, il n'y a pas écrit la poste, là.
Tout ça pour payer le deuxième tiers provisionnel.
Ou même le premier.
Misère de l'imposition à 45%. Bref, la reine ne vous en a pas trop voulu, Stéphane. Non. Il faut dire qu'elle a le
C'était
cuir
Elisabeth
épais.
Elisabeth Funfrock.
Outre, la reine, en tout cas, ne vous en a pas voulu, elle a le cuir épais. Outre la croûte signée Lucian Freud, où elle ressemble à une mamie frappée par la peste bubonique, en matière d'irrévérence, elle a connu le pire. Elle a donc connu les Sex Pistols. Alors évidemment, aujourd'hui être punk, ça veut plus dire grand chose, si ce n'est posséder un berger allemand et lancer des canettes de 8-6 sur les gens en beuglant le samedi soir dans une ruelle d'Avignon. Mais en 75, en Angleterre, c'était très différent. Le mouvement punk naissait d'une désespérance sociale et culturelle. C'est la crise, il pleut. Les jeunes issus des classes moyennes ne supportent plus le conservatisme de leurs parents. Ces fils et filles d'ouvriers sans le sou décident qu'il est temps de lancer une révolution punk. Punk, ça veut dire paumé, raté, à la ramasse, minable. C'est une insulte au départ, mais très vite, ça va devenir une vocation. No future, chanteront les Sex Pistols. Fuck la société de consommation. Fuck les politiciens.
Fuck au nazisme.
Oui, les punks vont très loin, Stéphane, surtout les punks portugais. Leur punk attitude, ils l'expriment via leur look d'abord. Grosse boute noire, jean troué, maquillage outrancier, des chaînes, des colliers pour chiens, la coupe en pétard ou la crête iroquoise. Mais être punk, c'est aussi politique. C'est un doigt d'honneur au système en général, au capitalisme, à l'oppression, au babacou, soul, au disco, au rock sirupeux des années 60 et aussi, Stéphane, oui, à la monarchie et ce qu'elle représente. C'est de ce magma révolutionnaire que naissent les Sex Pistols. Le groupe est donc composé à l'origine du chanteur Johnny Rotten, Johnny Pourri en français, hein, qui est né John Lydon, et du guitariste Steve Jones, du batteur Paul Cook et du bassiste Glenn Matlock, qui sera remplacé en cours de route par le fameux Sid Vicious, de son vrai nom John Simon Ritchie. Une sorte de boys band, en fait, réunie en 75 par le manager Malcolm McLaren, qui cherche en fait à assurer la promo de Sex, une boutique de vêtements alternatifs de King's Road qu'il gère avec Vivienne Westwood. McLaren veut vendre des fringues sexy et fétichistes, qui d'habitude ne se trouvent que par correspondance ou chez des animateurs de France Télévisions. À partir de l'été 75, une nouvelle faune de clients fréquente cette boutique. Steve Jones et Paul Cook sont des habitués. Glenn travaille déjà au magasin et John Lydon, 19 ans seulement, client occasionnel, rencontre tout ce petit monde et passera sa première audition en chantant un titre d'Alice Cooper craché par le jukebox de la boutique. Il n'a aucune expérience de chanteur, mais c'est un provocateur né, un dérangé au charisme incroyable. Il a les cheveux verts et un t-shirt sur lequel on peut lire « I hate Pink Floyd ». Les Pistols signent avec EMI et sortent leur premier single « Anarchy in the UK », Anarchy au Royaume-Uni, qui est à la fois un appel aux armes et un compte-rendu cynique de l'état de la nation. C'est frais, c'est violent, comme dirait David à l'issue d'une partouze.
Ça swing dans la purée.
Côté parole, ça n'y va pas non plus par quatre chemins, Johnny Rotten déclarant tout simplement être l'antéchrist et qu'il faut tout détruire.
Ah non mais ça me choque, je suis très choqué là.
Déclare l'évêque de Canterbury qui les excommunie. Bon, alors pour des punks qui se foutent de tout, ils maîtrisent quand même pas mal les bases du marketing, avec l'idée géniale d'une pochette de disque intégralement noire et le fameux visuel associant le drapeau des anarchistes et un drapeau anglais déchiré, puis rafistolé avec des épingles à nourrice. Cette image et tant d'autres créées pour les Sex Pistols est devenue aujourd'hui un emblème punk et fera par la suite les beaux jours des vendeurs à la sauvette de Piccadilly avec leur t-shirt Sex Pistols, William et Kate, stand où vous trouverez aussi aujourd'hui les vibromasseurs Born to be Wild, made to the exact specification of Stephen Byrne, dit l'étiquette. Vous ne l'avez pas? Vous devez absolument vous le procurer, c'est un must-have.
On a vendu beaucoup. Hein.
Oui, je sais, vous m'avez dit, c'est mérité, très bel objet, moulé sur... Bah, restons concentrés. Lors d'une émission en direct en 76, les Sex Pistols dérapent. Complètement bourrés, ils blasphèment dans des proportions jamais vues à la télévision, l'animateur est mis à pied, même le producteur pense qu'ils sont finis. En fait, ça leur fait un énorme coup de pub, car le lendemain, ils font la une de tous les journaux qui analysent, absolument scandalisés, l'incident de la veille, où des mots comme « shit »,« dirty bastard » ou encore « dirty fucker » ont été lâchés à l'antenne pour la première fois de l'histoire anglaise. Deux petits groupes underground, eh bien les Sex Pistols deviennent un phénomène. Le Daily Mirror titre son article « The Filth and the Fury », la répugnance et la fureur, et le Daily Express se demande « du punk ?» Appelez ça plutôt du profit répugnant. Leur nouveau titre, « God Save the Queen », va faire plus de bruit encore que les précédents, à tel point que même leur nouvelle maison de disques recule au dernier moment, réalisant à quel point ils sont tarés. 25 000 exemplaires du single sont déjà pressés, tous sont pratiquement détruits. Avis aux collectionneurs, les exemplaires rescapés font maintenant partie des disques les plus chers du monde, entre 575 et 14 900 euros la copie, si vous la trouvez. Il faut attendre donc la fin de l'année 77 pour enfin trouver dans les bacs. Les paroles sont considérées comme géniales et subversives par Philippe Manœuvre, scabreuses et choquantes par Stéphane Bern. God save the Queen, the fascist regime. They made you a moron, a potential H-bomb. God save the Queen, she's not a human being. Qui peut se traduire, Stéphane, par...
Tout le monde s'éclate à la queue le leu.
Oui, non, non.
Tout le monde chahute à la queue le leu.
Non, bref,
tout le
c'est...
monde s'embrasse.
Il ne veut pas, il ne veut pas réaliser ce que veulent dire ces paroles. C'est un tollé monstre. Les culs serrés s'étouffent avec leurs scones.
Pourquoi vous me regardez?
Je ne vous regarde pas, Stéphane. Mon regard se perd dans le lointain. Et vous êtes pile entre moi et ce lointain. Je sais combien vous étiez punk, vous aussi, dans votre jeunesse. Vous nous avez déjà raconté ici comment vous buviez des vitellements de cul sec en tirant sur le cordon du concierge. Bref, God Save the Queen, c'est le single de trop. Plusieurs grandes enseignes refusent de vendre le disque. La BBC et toutes les radios interdisent carrément sa diffusion. C'est simple, c'est la chanson la plus censurée de l'histoire en Angleterre. Une censure qui aboutit à un résultat paradoxal, comme souvent. Les Sex Pistols en écoulent 150 000 exemplaires. Ils sont déjà cultes. Mais voilà, Sid Vicious expérimente de plus en plus de drogue. Il enregistre, comme Matt Pokora d'ailleurs, une version de My Way très très éloignée de celle de Sinatra. Écoutez, c'est fou comme on dirait Olivier Pouls le soir où on avait fêté ses 45 ans.
And now, the end is near, and
ça c'est Pouls, 19h après l'apéro.
Oh non.
The final curtain.
C'est Pouls vers 22h après le repas.
I'm not the queer.
Ça c'est Poudre vers minuit, hein, après le 7ème Dijon. En octobre 78, la petite amie de Sid est malencontreusement retrouvée morte dans la chambre d'hôtel du couple à New York, et Sid est emprisonné pour meurtre. Il est libéré sous caution mais décède d'une overdose d'héroïne le 2 février 79 en attendant son procès. Quand la reine, très miséricordieuse, apprend son décès,
elle a du mal à cacher sa joie.
C'est définitivement la fin des Sex Pistols, c'est ce qu'elle a pensé certainement. Un esprit punk qui n'est pas tout à fait mort, puisque dans les médias il y a encore quelques déglingos qui prônent comme ça une forme de nihilisme rock, un no future, je m'en foutiste, comme j'ai pu le constater l'autre jour en écoutant déblatérer en antenne le dernier punk français, Vicious Bern.
Ah non, mais...
Est-ce que du coup tu dois te faire vacciner, toi?
Non, mais pas tout de suite. Ouais. J'attends qu'il y ait pas mal de morts.
Ah, c'est punk! Ils n'ont aucune limite, hein. Vicious Bern, là. Effectivement, mais attention, on ne peut plus faire de blagues comme ça, Stéphane.
Non, mais maintenant, on ne dit plus rien, surtout. C'est résultat de vos bêtises, c'est que maintenant, on ne dit plus rien. C'est du politiquement correct.
Mais donc, vous me disiez que vous aviez écouté les Sex Pistols.
Mais bien sûr, j'écoute les Sex Pistols.
Vous dansez sur les Sex Pistols, parfois.
Vous dansez, c'est beaucoup dire, c'est pas très dansant non plus, oui.
Ah, on peut faire des pogos. Vous avez déjà fait un pogo, Stéphane?
Oh, ça a dû m'arriver, oui. En tout cas, merci Mathieu, c'était bien trouvé, surtout parce qu'ils ont immortalisé la reine, finalement. Ils lui ont fait grand bien, d'une certaine manière.
Quelque part.
Europe 1, historiquement vôtre.
Notre spécial anniversaire de la reine d'Angleterre se poursuit jusqu'à 18h avec un retour dans le présent avec nos chroniqueurs qui aussi répondent toujours présents.
Oui Stéphane, surtout quand il s'agit de tester un pansement licorne ou préparer un carrot cake, rien ne leur fait peur.
Et justement, aujourd'hui Olivier, c'est en référence à la reine que vous nous parlez du carrot cake.
Oui, un délicieux dessert ou plutôt une pâtisserie qu'on mange
à toute heure,
à tea time par exemple. Et vous allez voir qu'il y a une histoire assez passionnante autour de ce carrot cake.
Histoire passionnante également autour de l'expression que va décortiquer pour nous Stéphane, ces expressions fabuleuses qu'il nous explique chaque jour et que j'oublie dès le lendemain. Aujourd'hui,
le roast beef. J'ai toujours envie de roast beef.
Oui, d'accord, mais on en parle pourquoi aujourd'hui? Pour la reine?
Oui.
Pourquoi dit-on
roast beef?
Pourquoi appelle-t-on les Anglais
rôti,
les roast beef?
À votre avis.
Mais juste avant, les origines d'une invention, aujourd'hui, une très belle invention, c'est le Queen's English.
Oh, I don't know. If few people can really grasp how well I speak English, it's amazing. Je ne sais pas si vous saisissez bien à quel point je parle pas anglais. Je crois pas. Je parle ultra bien anglais. Et en plus, je parle bien différents types d'anglais. Je peux faire l'accent british de la haute société que je vous ai fait à l'instant. Mais je peux aussi, par exemple, prononcer le mot communauté en anglais avec un accent populaire. Community.
Ah oui, vous voyez, ça, c'est très populaire.
Voilà, on enlève le T, ça fait tout de suite populaire. Je sais faire l'accent écossais. Et je veux dire, c'est assez injuste tout ça. J'ai rien fait pour. C'est un don. Vous voyez, il y en a qui savent dunker. Il y en a qui parlent anglais parfaitement. C'est comme ça. Mais si je suis honnête, je pensais tout savoir de l'anglais, en particulier de la prononciation britannique de l'anglais. Et récemment, je me suis rendu compte que non. Et comment je m'en suis rendu compte? Eh bien, en regardant la série The Crown. J'ai vu les trois premières saisons, celle dans laquelle la reine est jouée par une actrice anglaise qui s'appelle Claire Foy. Et cinq ou six fois par épisode, j'ai été frappé par certaines prononciation que sincèrement j'avais jamais vu ailleurs. Et je veux dire des choses que j'ai même pas vu chez les plus british des gens de la BBC. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que oui, la reine d'Angleterre parle un anglais qu'elle est pratiquement la seule à parler avec en gros une partie de la famille royale et peut-être la très très haute aristocratie. Et j'ai combiné mes propres observations avec quelques recherches pour vous livrer trois grandes caractéristiques de l'accent de la reine. C'est pas les seules, mais c'est celles que je vais vous livrer. La première caractéristique, c'est la prononciation des sons Y, en fait, de la reine à la fin des mots. Par exemple, le mot histoire. Les Anglais normaux, ils disent history, history avec un I à la fin. Et maintenant, écoutez la reine.
The course of our history.
History.
History. The course of our history. History se termine par un son E et non pas par un son I. Je vous le remets trois fois de suite pour que vous l'entendiez bien.
History. History.
History. Deuxième caractéristique intéressante, la prononciation des R de la reine quand ces R sont situés entre deux voyelles. Prenez le mot very, par exemple, que je prononce à la française là. Un anglais british normal, il va le prononcer very. Un truc qui vient un petit peu du fond de la bouche. Eh bien, la reine, elle fait quoi?
A very happy Christmas.
A very. Very. Le son R tape sur le devant. Et ça, c'est la seule à faire ça. Very. Je vous le remets encore une fois pour que vous entendiez bien.
Very.
Voilà, on a l'impression qu'elle...
Oui, mais oui, voilà. Exactement.
Quand vous l'enchaînez comme ça, on a l'impression qu'elle est en train de faire quelque chose.
Et enfin, la plus...
Oui, Stéphane,
et
ne soyez pas choqués.
Et enfin, la plus ouf des caractéristiques de l'anglais de la reine, à mon sens, ce sont ces O dans les mots courts. Prenez les mots off et lost. Tous les Anglais et même les Américains, ils veulent prononcer ça avec un O ouvert. Ils vont dire « I'm lost » et « to take off ». Eh bien, la reine, elle va traditionnellement utiliser un O fermé pas très loin de celui qu'il y a dans le nôtre, par exemple en français. Elle va dire « to take off ». Et elle va dire « I'm lost ».
C'est pas gallois, ça.
Je vous propose de l'écouter en 1957.
« I'm not surprised that many people feel lost and unable to decide what to hold on to and what to discard. »
« People feel lost ». Et encore une fois, je vous le remets encore une fois parce que c'est quand même le truc le plus ouf.
« Lost ». Lost.
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 Mais alors, d'où ça vient tout ça? Pourquoi la reine parle avec un anglais chelou? Alors malheureusement, je devais parler à un spécialiste de la question, mais qui n'était disponible que demain. Or, notre émission spéciale, Reine d'Angleterre,
ah, c'est votre
elle est allez, aujourd'hui. Allez. Et donc voilà. Mais j'ai quand même réussi à avoir quelques bribes de savoir. Allez. Et en particulier, une chose, c'est que l'accent de la reine serait... Et dans l'état actuel de mes connaissances, je ne peux dire que serait plus voisin d'une façon générale des sonorités allemandes. À cause peut-être de la proximité historique entre la noblesse Bosch et la noblesse Rosbif. Et ça pourrait donc expliquer certains particularismes. Mais le truc, c'est qu'il est assez possible que l'anglais de la reine soit en train de s'éteindre. Il y a des linguistes qui ont comparé les discours du début de son règne et des discours récents et qui ont remarqué que la reine a tendance à s'écarter légèrement des prononciations qui lui sont propres pour aller dans une direction qui est plus celle de l'anglais chic moyen. Et j'ai moi-même trouvé un exemple en comparant deux de ces phrases. La première, vous l'avez déjà entendue, c'est la phrase du discours de Noël 1957. Je vous la remets pour mémoire.
I'm not surprised that many people feel lost and unable to decide what to hold on to and what to discard.
Lost, lost. Et voyez à présent comme elle prononce lost 52 ans plus tard dans son discours sur le coronavirus en avril 2020.
The pain already felt by those who have lost loved ones.
Lost loved ones.
Ça, c'est Michu, beaucoup, là. C'est,
voilà,
c'est
il est beaucoup plus normal, ce lost. Et donc, elle s'est écartée de ses parlers ultra aristocratiques du début de son règne. Pire, j'ai parlé hier à une linguiste qui m'a dit qu'elle a décelé chez certains membres de la famille royale des caractéristiques super populaires de l'anglais. Et en particulier, les fameux dropped T's, le fait de supprimer les T dans certains mots, ce que je vous ai imité en début de chronique. Et elle disait en particulier que la princesse Diana, il lui arrivait de dire community.
Vous comprenez la reine quand elle vous parle, Stéphane?
Bah, vous aussi, non?
Oui, je la comprends très bien.
Oui, on comprend quand on dit I'm lost.
Moi, je suis bilingue.
Et je te dis burn ou burn?
Elle a jamais prononcé mon nom.
C'est plus facile pour
te dire. Non, il y a un truc comme ça, c'est qu'elle doit dire ban.
Oui.
Ah, ban. Oh, c'est clair. Ah, oui, ban. Écoutez, bravo pour cette enquête.
Oh, c'était magnifique.
Même si on a compris qu'elle aurait été encore plus incroyable.
Oui. Dans quelques jours, je pourrais peut-être vous donner un petit complément d'information une fois que j'aurai parlé à cet expert.
Prions pour qu'il y ait les 96 ans de la reine et que
en plus de revenir là-dessus. Okay, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Vous avez vu, je m'applique moi-même à parler le français
d'Emmanuel Macron.
Je ne sais pas.
Historiquement vôtre, spécial anniversaire de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, continue. L'heure de la pâtisserie, l'heure du gâteau est arrivée. Musique royale.
L'heure du carotte cake, mon cher Stéphane, en compagnie de la reine. Quelques bougies, c'est son anniversaire, j'imagine que ça vous ferait plaisir. Et alors, d'où vient
il a
pas, mais vous n'aimez pas le carotte
en fait,
cake
non,
pas,
ah, non,
vous n'aimez pas le carotte
non.
cake.
Alors, les origines du carotte cake remontent probablement au Moyen-Âge, à une époque où le sucre n'était pas facile à se procurer. Et vous savez, la carotte, en réalité, c'est un légume sucré. Et donc, elle était incorporée à des pâtes à gâteaux de manière à donner cette impression de sucré. Et les premières traces de carotte cake, figurez-vous, ne sont pas du tout apparues en Angleterre, mais en Suisse. Eh oui, une fois encore la Suisse, dans le canton d'Argovie, entre Bâle et Zurich.
Je découvre l'existence du canton d'Argovie
entre Bâle
après
et Zurich.
Toutes ces années.
Et en revanche, dès le XVIIIe siècle, on commence à trouver en Angleterre des recettes de carotte pudding, qui vont plus tard devenir le carotte cake. Mais il y a une histoire absolument incroyable, deux en réalité, sur la popularité du carotte cake en Grande-Bretagne. Et cette popularité, elle arrive au moment de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez bien cette histoire parce qu'elle est assez fabuleuse. À l'époque, les Britanniques veulent embrouiller l'ennemi, c'est-à-dire les Allemands, et ils prétendent que si les pilotes de la RAF sont aussi performants, c'est parce qu'ils mangent beaucoup de carottes et que la carotte, c'est bon pour la vue, et que donc, notamment pour les missions de nuit, ils sont extrêmement efficaces et ils repèrent très facilement les avions allemands qu'ils abattent. En réalité, ce n'est pas vrai. Les Anglais se sont dotés. Les Anglais se sont dotés depuis quelque temps d'une arme ultra secrète qui est le radar. Et en fait, la vraie astuce, c'est qu'ils ont le radar, mais il n'est pas question de le dévoiler. Et la population anglaise y croit. Et elle se met à manger des carottes en se disant, mais c'est bon pour notre vue. Des carottes sous toutes leurs formes, et notamment des carottes cakes. Alors c'est absolument incroyable cette histoire. Et ensuite, le carotte cake va devenir populaire aux États-Unis par une autre histoire amusante. C'est au lendemain de la guerre, un homme d'affaires qui s'appelle George Page. Il a des quantités astronomiques de boîtes de conserve de carottes sur les bras. Il a envie de les écouler et il met à contribution des pâtissiers pour créer une recette, on va dire, plus agréable de carotte cake avec un côté un peu twisté. C'est la recette qu'on mange aujourd'hui, donc qui est une recette de cake dans laquelle en général on met des fruits secs, on met des raisins secs, on met un petit peu d'épices, on mélange plein de choses. Et ça, c'est la version, on va dire, du carotte cake qu'on trouve aujourd'hui et qui est probablement la meilleure et la plus intéressante. Et donc, bah, évidemment, je vais vous en donner une petite illustration, une petite recette.
Stéphane attend ça avec impatience. Bah, avec impatience.
Il est prêt à noter. Alors, bah, c'est les ingrédients, finalement, d'un cake classique. C'est-à-dire 4 œufs, du sucre, 150 grammes de sucre roux, de la poudre d'amande, 150 grammes, un peu de beurre, 25 grammes, de la levure, et puis bien sûr des carottes, 250 grammes de carottes finement râpées. Moi, je rajoute du gingembre, je rajoute un zeste de citron, je rajoute des noix concassées, et je rajoute éventuellement une cuillère d'épices comme de la cannelle, de la muscade, et puis quelques raisins secs. Pour la préparation, ben, c'est la préparation classique d'un cake. On mélange tous ces ingrédients en commençant par les œufs, le sucre, on rajoute la poudre d'amande et ainsi de suite. Et on cuit le tout dans un moule à cake préalablement bourré pendant
C'est vous qui êtes bourré, mais pas le moule.
Bourré.
Oui, c'est mieux.
Pendant 40 minutes à 170 degrés. Et donc, vous verrez, à force d'en manger quelques tranches comme ça, ben, vous finirez par avoir une vision absolument impeccable, vous pourrez voir de nuit. Voilà.
C'est peut-être ça qui fait la différence. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Et on va retrouver maintenant Stéphane pour le mot de la fin.
Expression anglaise.
Qui va nous expliquer une expression sur les Anglais. Pourquoi on dit les roast beef, notamment quand on les bat au rugby, ou qu'ils nous battent plutôt. Les roast beef, d'où ça vient Stéphane?
Oui, bon, j'avais, pour cet anniversaire d'Elisabeth II, j'avais donc envie de vous parler de cette expression. On a longtemps appelé les Anglais les roast beef. Mais vous savez, sous Napoléon, on les appelait les homards, on les a appelés les Anglois, les Brits, les Anglish. Ça vient de l'armée, hein. Les troupes britanniques étaient connues pour leurs uniformes rouges. Et comme ils débarquaient souvent, bon, cela a donné une autre expression sur laquelle nous ne nous arrêterons pas cet après-midi. En France, avant le XVIIIe siècle, on consomme de la viande bouillie. Le bœuf rôti arrive et séduit la France, et ce alors que l'anglophobie est à son comble. En 1774, roast beef devient officiellement une insulte. Le mot signifie viande grillée à l'anglais, soit roast beef. Le choix de cet aimable surnom vient du plat, mais aussi, ne le cachons pas, au bronzage si particulier que prennent les Anglais quand ils s'exposent un peu trop au soleil normand. Mais revenons à nos roast beef, c'est aussi le plat que les traiteurs anglais basés à Calais servaient à leurs compatriotes quand ils arrivaient de la perfide Albion pour les consoler et leur rappeler leur mère patrie et esquiver le ragoût des Français jugé à l'époque dévirilisant par nos frères ennemis. Allez, terminons par une citation qui résume tout. On la doit à l'icône absolue, Marianne Faithfull. J'ai commencé à comprendre les Anglais le jour où j'ai enfin réalisé qu'ils disent exactement le contraire de ce qu'ils pensent.
Le roast beef est dévirilisant.
C'est la viande bouillie qui est dérivée.
C'est le ragoût qui est dérivé.
Le roast beef, oui.
C'est la viande rouge, oui.
Parce qu'il y a du sang, c'est sanguin.
Si, comme David, vous comprenez mal ce que raconte Stéphane, si, comme moi, vous l'oubliez dès le lendemain, retrouvez cette chronique, évidemment, en podcast sur Europe1.fr. Aujourd'hui, on a vécu un numéro si émouvant, historiquement vôtre, à l'occasion des 95 ans d'Elisabeth II, que demain, nous vous proposons une spéciale Elisabeth II, 95 ans et un jour. Mais c'était émouvant, surtout pour vous, Stéphane. C'est vraiment quelqu'un qui vous fascine, la reine d'Angleterre, ou bien vous en rajoutez un peu?
Bah, il faut bien que je vende mon commerce. Non, j'ai beaucoup d'admiration pour elle et pour ce sens du devoir qui nous est si étranger aujourd'hui, dans les temps que nous vivons. Mais ce qui était passionnant, je vais vous dire, c'était d'avoir Jean-Marie Durand, d'avoir également Irène Fin, pour en parler, et ce magazine Légende,
le quatrième numéro est disponible. Alors, si on ne fête pas le 9
anniversaire... Vous n'avez pas dit que j'avais écrit dedans?
pardon, excusez-moi.
Non, mais c'est quand même. Ça serait assez mais gentil
Stéphane,
pour un camarade.
Non seulement vous avez écrit dans cet extrait moyen, mais surtout, vous êtes cité en premier dans les collaborateurs.
Non, ça c'est l'ordre. Bien...
L'ordre alphabétique.
Vous avez voulu me flatter, c'est tombé à l'eau.
Oui, c'est tombé à l'eau. Mais non, mais c'est très beau ce que vous écrivez dedans.
Oui, merci.
Je lirai demain.
Voilà.
Demain, Stéphane.
Et pensez à donner le numéro du linguiste qu'on appellera demain aussi. Alors, demain, comme l'une des couleurs préférées des tailleurs de la reine, ils sont verts. À l'occasion de la journée de la Terre, on réunit des écolos avant l'heure. Le rouge Karl Marx, qui était plus vert qu'on ne le croit, Louis de Funès et son potager bio.
Et lui aussi est tout vert et musclé aussi. Peut-être écolo également, on verra ça, c'est Hulk. Bref, what a wonderful program, Stéphane. See you tomorrow then.
Oh, see you tomorrow, Matthew Christmas.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.